Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace un peu plus frais, ça va faire du bien. J'ai le plaisir de modérer c'est un grand mot, j'ai le plaisir en tout cas d'animer un débat ou une discussion, une rencontre autour de ce concept que certains d'entre vous connaissent déjà et certains d'entre vous probablement manipulent déjà. Peut-être que pour d'autres c'est un concept qui est un peu ésotérique et on aura l'occasion de revenir dessus et de l'expliquer, mais c'est le concept de l'intersectionnalité. Le projet de ce débat ici est d'essayer de voir de quelle manière on peut mener des luttes concrètement, des luttes intersectionnelles avec succès. Et pour en parler, trois personnes qui représentent trois mouvements collectifs qui sont directement concernés par cette question de l'intersectionnalité. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Ruth Paloukou, qui travaille à la Rainbow House à Bruxelles. Également Shaima Guélène, qui elle représente le collectif Kaina. Et Aliou Baldé, qui représente le collectif Mémoire Coloniale. Trois collectifs, trois visions, trois approches, trois manières peut-être aussi d'aborder ou d'affronter la question de l'intersectionnalité, mais peut-être que le plus utile et le plus efficace est de demander à chacun d'entre eux de bien vouloir expliquer en quoi ce concept est important à leurs yeux et en quoi ils sont et de quelle manière ils sont confrontés dans leur quotidien ou dans leur travail, dans leur vie quotidienne, dans leur vie communautaire, confrontés à ces questions-là. Alors, Ruth, peut-être dans un premier temps, toi, ce concept, comment est-ce qu'il te parle, comment est-ce que tu le rencontres et comment est-ce que tu l'affrontes ?
Mais donc déjà, pour clarifier, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité ? L'intersectionnalité, c'est, pour les personnes, je me dis qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas, c'est un concept qui a été conceptualisé, du coup, par Kimberlé Crenshaw, une avocate afro-américaine, dans les années 1980. Mais voilà, et donc le principe de l'intersectionnalité, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui naviguent dans ce beau monde à l'intersection des rapports de domination que sont la race, le genre et la classe. Et donc voilà, donc c'est ça en tout cas pour faire très court. Et comment est-ce que moi, est-ce que je rencontre l'intersectionnalité ? Ben, il se trouve que je suis une femme noire, bisexuelle, belgo-congolaise, issue d'une famille pauvre, comme la plupart des Belgo-Congolais de ma génération. Et au jour le jour, on se dit déjà que être une femme, c'est pas facile, être noire, c'est pas facile. Alors, principalement, en fait, je dirais que c'est plus une question de comment est-ce qu'on essaye de tacler les barrières que la société nous met. Donc voilà, c'est plus, on va dire, une lutte constante. Voilà, mais en même temps aussi, ça permet de l'intersectionnalité, c'est quelque chose aussi qui permet justement de comprendre qu'en fait, il existe plein de ressources dans la manière dont les femmes noires s'organisent pour leur libération et qu'en fait, il y a plein d'empowerment à justement s'organiser et lutter ensemble, et voilà.
Parfait. Alors, Shaima, peut-être qu'une des notions centrales dans ce concept aussi, c'est l'invisibilisation de certaines communautés ou de certaines catégories de personnes qui provoquent quelque part, ou en tout cas qui est un peu à l'origine ou au tréfonds de cette question de l'intersectionnalité.
Mais moi, j'ajoute à... On entend ?
Oui,
je parle. À ce que Ruth a dit, qu'être musulmane, c'est pas facile. Pas facile du tout. En fait, ce que ce concept permet, c'est une grille d'analyse, en fait, qui permet de voir des situations qui sont invisibilisées, marginalisées, parce que pas prioritaires pour la majorité. Par exemple, pour être tout à fait concrète, des femmes musulmanes qui ont décidé de s'habiller de manière à couvrir leur corps, leurs cheveux, parce que ça leur convient, c'est leur décision à elles. Elles sont discriminées, par exemple, à l'embauche ou dans certains établissements d'enseignement supérieur non universitaire. Elles ne peuvent pas faire leurs études parce qu'elles doivent d'abord s'habiller autrement. Donc toutes ces situations ne sont pas rendues visibles par un féminisme qu'on peut dire majoritaire, universaliste. Ça a coupé. J'ai parlé d'universaliste et ça a coupé. Complot. Okay. D'ailleurs, c'est partant de ce constat qu'on a décidé, nous, de créer notre propre collectif, c'est-à-dire porté par des femmes qui ont une même expérience sociale, donc à l'intersection de plusieurs oppressions, c'est-à-dire de plusieurs difficultés, donc de plusieurs discriminations comme symptômes de ces dominations, c'est-à-dire des personnes qui sont femmes, mais qui sont en même temps musulmanes, et donc dans le contexte qui est le nôtre, dans la société qui est le nôtre, ces femmes-là, ces groupes-là sont stigmatisées, soit comme soumises, soit comme dangereuses, soit comme islamistes, donc elles sont déshumanisées, et leurs priorités, donc leurs problèmes, comme par exemple l'empêchement à pénétrer dans des espaces d'émancipation que sont le travail, l'emploi, mais même la piscine, la plage, ce ne sont pas des priorités portées par les féministes majoritaires ou par les collectifs déjà existants. Et c'est tout à fait normal parce que chaque groupe humain défend des intérêts qui sont les leurs, les problèmes qui sont les leurs. Donc on a décidé de se prendre en charge et on a créé ce collectif. Et moi, dans ma peau, tout comme Ruth l'a expliqué pour elle, dans ma peau, dans ma vie de tous les jours, cette situation spécifique de femmes musulmanes, pas de femmes et personne de confession musulmane, mais femme musulmane, donc j'ai des problèmes spécifiques, et au sein de mon collectif, de notre collectif, quand je dis je parle d'un jeu collectif, hein. Nous, en tant que femmes qui vivent ces situations spécifiques, on a décidé de porter notre propre lutte, tout en restant solidaires avec les autres, mais je pense qu'on en parlera au moment de comment lutter efficacement sans dominer.
D'accord. Alors, Aliou, on a parlé d'invisibilisation, mais il y a aussi toute la question des stéréotypes. Parfois, je pense que mémoire coloniale, c'est aussi quelque chose contre lequel vous souhaitez, vous, lutter de manière tout à fait évidente.
Oui, tout à fait. Je commence d'abord par préciser que je n'étais pas censé être à ce débat. Oui, on parle d'intersectionnalité, c'est un homme qui vous parle. C'est ma camarade Sarah Kawaya, qui est la secrétaire générale du collectif, qui était censée être là, malheureusement. Son état de santé fait que je me retrouve ici donc avec mes privilèges d'homme, donc prenez le message d'un point de vue selon ce que j'ai dit avant. Bref, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, le nom est un peu long, mais c'est parce que une grande partie de ce qu'on fait en fait se retrouve dans le nom. Donc Mémoire coloniale d'un côté et lutte contre les discriminations d'un autre côté, parce que nous pensons qu'il y a un lien, disons, très intime entre la propagande coloniale, les stéréotypes et les préjugés dont il a parlé, et les discriminations que vivent au jour le jour les afrodescendants ici en Belgique. Donc la question ici, c'est comment déconstruire cette propagande coloniale, puisque malheureusement, elle ne s'est pas arrêtée avec la période coloniale officiellement connue, je dis bien officiellement entre des guillemets, parce que je dis souvent aux visites guidées d'ailleurs que coloniser le noir par le noir et tout le monde y verra de l'indépendance. Il faut faire attention au système. Le système peut changer d'individu, de couleur de peau, mais le système peut rester le même. Et donc ici, il s'agit véritablement de s'intéresser d'abord au système et les préjugés qu'il a mis en place. Et ces préjugés se sont transmis de génération en génération. C'est pas un hasard si au festival Puckle Pop, on a un festival ici, c'est pas le même genre, je l'admets. Puckle Pop, si des jeunes flamands de mon âge chantent couper les mains au Congo, couper les mains, le Congo est à nous. C'est une chanson qui est chantée par leurs arrière-arrière-grands-parents. Donc c'est un peu bizarre de se dire qu'est-ce que des jeunes qui ne sont pas nés durant la période coloniale font avec cette chanson. C'est que quelque part, il y a une transmission qui est là et qui est faite de génération en génération. Et donc il est important de s'intéresser à cette question-là, parce que quand mes aînés ont créé le collectif il y a 6 ans, et qu'on a été voir la classe politique pour leur dire la question de la décolonisation, il faut la mettre sur la table parce que c'est important. On nous a répondu 2 choses. D'abord que les Noirs de Belgique étaient gentils et que donc il fallait surtout s'intéresser aux Marocains, etc., qui étaient un peu plus trouble-fête. Hein. Tout ça, c'est des stéréotypes, évidemment. Deuxième chose, c'est que c'est une classe d'anciens coloniaux, des vieux coloniaux qui étaient nostalgiques de cette période coloniale et qui continuaient encore à faire certaines conférences, et que en gros il fallait attendre que ces personnes décèdent en gros pour se voir débarrasser de la question. Sauf que Puckle Pop, sauf que beaucoup de choses qui apparaissent au jour le jour dans la société. Donc la question de la décolonisation est importante pour la déconstruction des stéréotypes et des préjugés, mais également sur la question de l'intersectionnalité. Je vais revenir tout à l'heure sur ça.
Ok, parfait. Quelque part, on l'a vu, trois collectifs, trois manières d'aborder ces questions d'intersectionnalité, peut-être avec des points communs, peut-être avec des différences aussi. Il y a une critique qui est souvent invoquée par rapport à la question de l'intersectionnalité, c'est que ça peut aussi avoir comme effet de provoquer des ruptures ou de provoquer quelque part un peu l'éclatement des luttes plutôt que de les rassembler, de faire en sorte que finalement chacun se retrouve un peu dans son ghetto, à lutter en fonction de sa spécificité ou en fonction de ce qu'il estime être ses spécificités. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique-là? Est-ce que c'est une critique à laquelle vous êtes confronté parfois? Comment est-ce que vous l'affrontez, cette critique? Ruth peut-être, et puis après, Shaima.
En fait, là, je vais répondre longuement, mais en général, je ne réponds pas. Donc ça, c'est déjà un conseil que je donne à tout le monde de manière générale. Pas le temps de... Enfin, c'est vraiment très mal comprendre ce que c'est l'intersectionnalité. Pour un peu contextualiser... En fait, c'est très bien comment tu l'as dit, parce que dire que ça divise, c'est vraiment déjà ne pas comprendre d'où est-ce que c'est né. Parce que ce qui se passe quand Kimberlé Crenshaw écrit cet article là où elle nomme l'intersectionnalité, elle parle justement de cas spécifiques de femmes noires discriminées dans leur lieu de travail, là où on a différents cas, là où des femmes n'ont pas accès, parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont noires, n'ont pas accès à des promotions, n'ont pas accès à la représentation de tout le groupe femmes de leur entreprise, parce que ce sont des femmes noires, et du coup, comment est-ce qu'elles pourraient représenter des femmes blanches? Elles ne peuvent pas non plus représenter des hommes noirs, parce qu'en fait, ce sont des hommes, mais pourquoi est-ce qu'elles, du coup, elles iraient représenter des hommes? Et du coup, c'est plutôt, en fait, l'éclatement sociétal qui existe déjà, qui est mis en lumière par l'intersectionnalité. Donc, c'est vraiment de dire comment est-ce que, en fait, les luttes féministes et les luttes antiracistes ont, à un moment, oublié dans l'histoire les femmes noires qui étaient à l'intersection de ces deux rapports d'animation, et comment est-ce que, finalement, en fait, il y a vraiment un rapport de d'animation spécifique qui se crée à l'intersection des deux. C'est pas juste je vis les deux en même temps, c'est à l'intersection des deux, il y a quelque chose de très spécifique que je suis en train de vivre. Je vis pas un sexisme qui est que vit une femme blanche, je vis pas le racisme d'un homme noir. Parce que dans la rue, oui, la police va vouloir me contrôler plus longuement. Quand je rentre dans un festival, on va fouiller mon sac beaucoup plus longtemps, des choses comme ça, etc. Mais je reste pas un homme noir qui va potentiellement directement entrer dans des querelles avec la police, parce que la police est telle qu'elle est. Donc voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment justement cette spécificité. Ça, c'est une première chose. Donc, il n'y a pas un éclatement. Il y a déjà, en fait, un vide qui est créé de par, justement, le sexisme et le racisme. Et en fait, les femmes noires se mettent en lutte pour la libération, déjà, de ces rapports de domination. Et la deuxième partie de ma réponse, c'est aussi, et c'est là la beauté de l'intersectionnalité, c'est aussi toucher, en fait, le fond du problème. Comment est-ce qu'en fait, finalement, lutter pour la libération d'une femme noire, c'est en fait lutter pour la libération de tous? Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens, en fait, oublient. C'est qu'à chaque fois, en fait, on fait une lutte spécifique, communautaire. Mais en fait, c'est la libération de plein d'autres personnes, que ce soit des femmes, qu'elles soient blanches, que ce soit des hommes, qu'ils soient blancs, etc. Elle peut aussi passer justement par la libération des femmes noires. Et c'est pas un éclatement qu'en fait de mettre son énergie dans la libération des plus opprimés pour être soi-même libéré de plein d'autres rapports de domination.
Shaima, d'accord, oui, effectivement, oui, on peut se rassembler.
Oui, oui, tout à fait d'accord, mais j'adhère complètement à ce que tu as dit. C'est la société en soi qui est divisée, qui divise déjà les individus, puisque certaines personnes ont des droits, donc des privilèges. Il y a bien les différentes affiches, hein, check des privilèges. Donc il y a des personnes qui ont des privilèges et des personnes qui sont discriminées. Donc ces problèmes existent déjà. Et franchement, qui est plus à même de lutter pour un problème que la personne qui vit ce problème-là? C'est-à-dire que nous, en tant que femmes racisées, en tant que musulmanes, c'est-à-dire définies comme inférieures et discriminables, qui de mieux que nous peuvent lutter pour nous libérer, nous? Mais dans un projet politique, pour nous, en tout cas à Kaina, notre projet, c'est la libération de toute la société. Donc c'est un projet politique. C'est vraiment notre lutte s'inscrit dans un projet politique qui est celui de la justice sociale et de l'égalité pour toutes et pour tous. Donc nous, quand on dit émancipation, donc accès pour les femmes musulmanes, peu importe comment elles sont habillées, dans des espaces d'émancipation que sont censés être le travail, l'école, le monde politique, le monde culturel et autres, en fait, à travers ces femmes-là, donc à travers la lutte pour les femmes racisées que nous sommes, c'est également pour toutes les femmes et pour tous les êtres humains, parce que selon nous, dans notre lecture qui est de type décolonial, aussi longtemps qu'il y aura une personne opprimée quelque part, le groupe humanité ne sera pas libéré, ne sera pas émancipé. Et en ce qui nous concerne personnellement, les femmes bien évidemment. Si on se dit, restons dans un combat de type féministe qui serait unique, universaliste, universalisante, bref, qui verra le groupe femme comme homogène, c'est faux, ça n'est pas vrai. On a des divisions de classe, il y a des femmes pauvres, il y a des femmes précarisées, il y a des femmes qui sont avantagées, dont l'objectif principal c'est l'égalité salariale, alors que d'autres ne trouvent pas de boulot, ou quand elles trouvent du boulot, alors qu'elles sont qualifiées, on les renvoie vers des emplois qui ne sont pas les leurs parce qu'elles ne les ont pas choisis, comme le nettoyage, l'horeca et autres. Je n'ai pas ça pour dénigrer ces boulots-là, simplement je parle du principe de choix que chacun devrait avoir. Nous, les femmes comme les hommes, devons pouvoir accès à tous ces espaces donc, qui sont destinés à tous les humains de manière libre, égalitaire, équitable et juste. Donc quand on dit que nous avons une lutte, en tout cas, nous, à Kaina, que notre lutte est féministe, décoloniale et qui mobilise une analyse intersectionnelle, ce n'est pas pour diviser, c'est pour montrer une situation spécifique qui, tant qu'elle continue à exister, continue à aliéner et à aliéner tous les humains et à rendre cette société injuste. Et cette injustice, après, on dit injustice, on dit aliénation, mais ce sont des vécus, ce sont des femmes qui se retrouvent à la maison, ou ce sont des femmes qui ont des diplômes, qui ont des qualifications, mais qui se retrouvent dans des boulots qui ne nécessitent pas ces qualifications. C'est profondément injuste et inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que nous trouvons que c'est important de se prendre en main, de s'auto-organiser. C'est ce que les féministes, donc des féministes occidentales ont fait, hein. À un moment donné, elles ont vu que leurs intérêts n'étaient pas défendus. Et en tant que femmes, elles ont décidé de construire le mouvement féministe partout dans le monde. J'ai parlé d'Occident, mais partout dans le monde. Hein. Partout dans le monde, des femmes, à un moment donné, se disent il faut absolument qu'on s'auto-organise séparément des hommes, dans un premier temps, pour pouvoir définir nos priorités, notre agenda, nos modalités de lutte. Mais après, on se lie, on travaille ensemble, puisqu'on fait société ensemble.
Allez, oui, voilà, pour confirmer ou peut-être pour rajouter déjà encore autre chose.
Ah, on peut les applaudir déjà pour ce qu'elle vient de dire. C'est bien très important. J'espère que Ruth ne va pas me dire que ce que je viens de faire est sexiste, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Elle a tendance à piquer. Je reviens à un terme qui a été prononcé, c'est le terme communautaire. On vit quand même en Belgique, d'accord ? On est dans un pays communautaire, c'est-à-dire que ça fait partie des valeurs de cette Belgique que l'on aime tous. Et dans cette Belgique que l'on aime tous, beaucoup de gens sont nés belges, ils sont issus de minorités, mais apparemment en Belgique, il n'y a que 3 communautés. Donc il y a les Flamands, il y a les Wallons, et puis il y a les germanophones, qu'on oublie très très souvent d'ailleurs. Mais les autres. On est dans un pays où les minorités ne peuvent pas rougir d'être communautaires. Il faut qu'on arrête ça. Ça fait partie des valeurs de ce pays. Donc nous sommes tout à fait des citoyens si on dit qu'on est communautaire. Donc on arrête le procès du communautarisme, ça suffit. On dit d'ailleurs souvent que quand deux blancs prennent un verre, on dit qu'ils prennent un verre. Quand c'est 2-3 noirs, on dit « Ah, ils sont communautaires ». En fait, il faut qu'on arrête ce procès-là. Il faut qu'on arrête ce procès-là parce que ça amène à quoi ? Ça amène à la division de ceux-là même qui sont les membres de cette même minorité. Parce que quand on me dit à moi que je n'ai pas le droit d'être communautaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça provoque la haine de moi-même. C'est-à-dire que je me déteste moi-même parce que je suis noir, parce qu'on m'a interdit d'être communautaire avec un autre noir. D'où la division dont on parle ici. Donc la construction communautaire, elle fait partie de la domination coloniale telle qu'on l'impose. Alors, ce n'est pas un hasard d'ailleurs que si les communautés s'institutionnalisent en Belgique, c'est après l'indépendance. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que justement, la colonisation a servi de lien entre Flamands et Wallons pendant des décennies et des décennies. Il y a des histoires coloniales qui ont été manipulées dans le sens du nationalisme belge. L'union fait la force. Alors, vous ne savez peut-être pas aujourd'hui, peut-être vous n'avez jamais entendu parler du sergent De Bruyne et du capitaine Lippens. Ce sont deux Belges, l'un flamand, l'autre wallons qui sont morts au Congo, entre guillemets, pour apporter la civilisation aux nègres. Ces deux personnes se sont retrouvées, en fait, dans une résistance coloniale. Ce qui s'est passé exactement, c'est que l'un a été fait prisonnier, l'autre a été touché à bout portant. Alors, il n'est pas mort tout de suite. On a manipulé l'histoire en disant quoi ? Qu'en fait, le sergent De Bruyne, le flamand, est resté, a refusé de laisser son compagnon Lippens, sur, son compagnon wallon, donc, sur le terrain du combat, pour l'union fait la force. Mais la réalité des faits, c'est quoi ? Et on revient à l'intersectionnalité. C'est que les deux étaient amants, ils étaient homosexuels. La vérité de l'histoire, elle est celle-là. Mais en Belgique, vu qu'à l'époque, déjà, la question de l'homosexualité, c'était hors de question, encore plus dans la colonie. Et donc, on manipule l'histoire ici en disant le sergent De Bruyne, le patriote flamand, a refusé de laisser son frère wallon au combat. Ça a été le lien très souvent. Le Congo a été le lien entre flamand et wallon. Il ne faut pas qu'on oublie cet élément très important. Et donc, nous, au collectif, on dit, notre slogan, c'est « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». On revient encore à la logique d'auto-organisation. Nous ne pouvons pas lutter contre le racisme, contre tous ces systèmes de domination, si on continue à prêcher la bonne parole aux Blancs. Il faut qu'on se mette les choses au clair. La lutte contre le racisme viendra des communautés elles-mêmes. Viendra des communautés elles-mêmes et leurs alliés Blancs. Je dis bien ça. Et leurs alliés Blancs. Et donc, on participe à au renforcement de ces communautés d'abord, avant de parler d'aller prêcher la bonne parole. Moi, je ne suis pas militant pour aller dire aux Blancs qu'en fait, ils sont racistes. Non, je ne suis pas militant pour dire ça. Je suis militant pour dire la communauté à laquelle j'appartiens est discriminée et cette communauté-là, je participe à son renforcement. Et donc, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Ça, c'est leur rôle de moissonner les âmes puisque on est dans un lieu, l'abbaye, hein, on est dans un lieu qui rappelle cette histoire un peu. Le rôle de l'Église, très important dans le pouvoir colonial, c'était moissonner les âmes. Et pendant très longtemps, l'éducation au Congo a été aux mains des pères blancs. Pendant qu'ici en Belgique, on refuse justement que l'Église ait l'enseignement en main. Ce qui n'est pas bon pour soi n'est pas bon pour les autres. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Sur la logique maintenant de l'intersectionnalité, je reviens à la question des femmes, puisque cette question s'est posée au sein même du collectif. C'est-à-dire qu'on existe depuis 6 ans et on a une cellule afro-féminine, et non pas afro-féministe, je reviens encore sur ce terme, depuis 3 ans. Parce que la question justement s'est posée de savoir quel est le rôle de ces femmes dans l'histoire coloniale. Qu'est-ce que les femmes belges ont fait dans l'histoire coloniale? Qu'est-ce que les femmes noires au Congo ont fait contre le système colonial également. J'étais surpris moi-même de savoir il y a quelques années que, en fait, je ne pouvais pas citer une seule résistante au colonialisme qui soit afrodescendante. Ce qui est assez bizarre. Pourtant, je peux vous citer des Lumumba, je peux vous citer des Mandela, je peux vous citer plein de noms qui sont tous des hommes. Parce que ma construction a été faite ainsi. Parce que la construction a été faite ainsi. L'un des outils de domination par excellence, c'est nier les gens de l'histoire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, d'abord, c'est les Blancs qui ont écrit l'histoire des Africains, les Blancs coloniaux. Alors, quand je dis Blanc ici, parce que ça aussi, je reviens là-dessus, je vais avoir des attaques tout à l'heure en sortant de la salle. Quand je dis Blanc, je parle bien du système. C'est très important. Je ne parle pas de vous en tant qu'individu. Parce que quand on regarde dans les faits, vous n'êtes pas Blanc et je ne suis pas Noir. En tout cas, si c'est les couleurs de peau dont on parle. Il faut qu'on se mette les choses au clair et qu'on parle vrai. Parce que sinon, on va répéter les mêmes erreurs. C'est des questions douloureuses, mais il faut en parler. Il faut mettre carte sur table, il faut en parler. Il faut tomber le masque. Je suis un homme dans une société patriarcale sexiste. Je sais que je suis forcément sexiste. Je ne peux pas me réveiller du jour au lendemain et dire « je suis antisexiste ». Je mets le masque et ça y est, c'est bon. Dans ma vie de tous les jours, je ne fais aucun sexisme. Ce n'est pas possible. Je sais que je le suis, j'en suis pas fier, je me déconstruis au jour le jour. Pour le racisme, c'est pareil. Moi, je suis surpris de voir des gens, du jour au lendemain, un système qui est là depuis des siècles et des siècles, du jour au lendemain, on est devenu antiraciste. Mais non, il faut faire le travail progressif sur soi-même, le déconstruire au jour le jour, et assumer
qu'en fait, on a intégré des choses en soi. Assumer cela, simplement.
On arrive vraiment au cœur du sujet, hein, de ce mini-débat ou de cette rencontre. C'est effectivement comment faire pour lutter efficacement de manière intersectionnelle. On l'a présenté, on a déconstruit le concept quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment faites-vous, de manière quotidienne, que faites-vous dans vos activités militantes, pour lutter efficacement de manière intersectionnelle ? Ruth.
Première chose, c'est l'autonomie politique. Enfin, on en a déjà un peu parlé. Mais oui, s'organiser toujours pour nous, par nous, c'est hyper important. Avoir des moments là où je peux me ressourcer auprès de mes sœurs et militer ensemble, imaginer ensemble, rêver ensemble. C'est ça, en fait, lutter de manière intersectionnelle, c'est vraiment déjà comprendre le concept, quand même. Parce que le mot, il peut très vite être utilisé. Ah ouais, je suis féministe intersectionnelle. Wow, wait a minute. Genre en mode, blanche comme un carton, etc. T'es là en mode, ok, enfin, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. C'est vraiment créer des espaces, apporter nos thématiques à l'ordre du jour, que ce soit dans des milieux mainstream ou pas. Et donc vraiment, pour moi, c'est hyper important dans les autres liens que je crée d'être dans des endroits là où il y a un respect très fort de l'autonomie politique de chacun et de mon communautarisme, etc. Et je dirais aussi que c'est un apprentissage aussi constant. Parce que comme on l'a aussi déjà un peu abordé, il y a plein d'autres choses en fait qui s'ajoutent à ça, au fait d'être une femme noire, etc. Moi, je travaille à la Rainbow House, qui est une association LGBT. Et on s'organise aussi entre personnes noires, queer, pour la libération, contre le racisme et contre plein d'autres choses. Mais c'est vraiment... C'est encore vraiment dans plein d'autres spécificités, et à chaque fois on apprend à travailler entre personnes noires, entre personnes hétéros, entre personnes trans, et toujours aller plus loin. Je crois que si on n'a pas la volonté de faire tomber le masque, de vraiment faire le taf, parce que c'est ça, c'est pas du jour au lendemain en fait. En fait, c'est trop bien ce que tu as dit, c'est vraiment ça. C'est faire, en fait, lutter de manière intersectionnelle, c'est juste lutter, en fait. Faites le taf. Franchement, il n'y a pas quelque chose qui tombe du ciel. Il n'y a pas une lecture qui, un jour, va vous genre dire « Oh my gosh, il faut absolument que je fasse ça ». C'est vraiment juste, mais je crois qu'il faut mettre la main à la pâte, en fait. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que j'aime pas genre partir dans des grands discours et de dire oui, il faut être inclusif, etc. Enfin, je crois que au bout d'un moment, on entend ça beaucoup, et j'aime pas beaucoup répéter beaucoup de choses, mais je crois que c'est vraiment juste, faites le taf. Genre, vous comprenez pas quelque chose sur les questions de racisme en Belgique, ben, vous ouvrez votre PC, vous tapez Google, racisme en Belgique, vous lisez quelques articles, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe en Belgique. Vous êtes là en mode, ah ok, voilà, maintenant je sais peut-être un peu mieux naviguer dans ce monde et comprendre un peu les autres personnes qui m'entourent. Vous êtes là genre en mode, ouh, aujourd'hui j'ai envie de voir un peu qu'est-ce que c'est le sexisme. Et voilà, enfin, Google est votre ami, même si c'est une multinationale, ça permet de faire le taf. Oui, franchement, se renseigner, s'éduquer, toujours, enfin, moi j'ai beaucoup de discussions avec d'autres amis activistes, militants, travailleuses, qui me disent « Ah mais Ruth, comment ça se fait que tu fais autant de trucs, tout ça, etc. » Mais je sais pas. Ou « Comment ça se fait que tu es fatiguée aujourd'hui ?» Des trucs comme ça. Je ne sais pas, hier soir j'ai lu un article, j'ai regardé une vidéo. Ça... « Ah, à quoi tu lis ?» Et si vous savez le nombre de personnes qui m'ont dit « À quoi tu lis ?» J'étais là genre en mode... Voilà, enfin, je fais quelque chose de ma vie, quoi. Je veux dire, je viens pas vous parler, ça sert pas. Enfin, j'ai pas eu la bonté divine qui m'a dit, genre, en mode, waouh, l'intersectionnalité, j'ai tout compris. Non, je passe mon temps à lire, à toujours aller chercher plus loin, etc. Et ça aussi, c'est faire le taf, des fois, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus, des fois, s'épuiser à militer dans des collectifs, créer des choses, etc. Des fois, il faut juste être solidaire de ce qui existe déjà. Enfin, on est trois personnes différentes dans trois milieux complètement différents, et on fait que se croiser, en fait. Je veux dire, au jour le jour, on n'est pas tous les jours main dans la main en train de militer ensemble, mais on a chacun notre taf, etc. Et être solidaire, c'est aussi toute une manière de militer. C'est la bonne base pour militer, c'est aussi l'humilité. Des fois, retomber un peu de son nuage, parce qu'on peut vite tomber dans le truc de « Oh my God, je milite, on va faire ça, et on va mettre ça à l'agenda politique, et on va réussir à ça. » Et des fois, juste retourner au fait de savoir en fait comment vraiment naviguer dans le monde avec des personnes noires, par exemple en tant que personne blanche. Moi j'adore parler en plus dans ce genre de festival d'appropriation culturelle avec tout ce qui est dreadlocks, etc. et tout ça. C'est typiquement le genre de choses là où moi j'organise un festival, j'ai ma tondeuse avec moi, dreadlocks, bam, chop it off. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Des fois, je crois que militer, c'est aussi apprendre à vraiment vivre ensemble. C'est le truc le plus bateau que je dis aujourd'hui, mais c'est vrai en fait. Genre moi, j'essaie vraiment d'apprendre, enfin, dans les personnes, on va dire mon support system qui m'entoure, ces gens doivent savoir comment vivre, mais vraiment parler avec une femme noire, quoi. Parce que sinon, en fait, on va pas s'entendre. Genre les remarques sexistes, bam, l'homophobie, bam. Genre, c'est vraiment ça en fait. Et c'est compliqué en fait. Ouais, donc c'est pas simple. Voilà, mais vous pouvez le faire, enfin faites-le en fait.
C'est compliqué, mais c'est peut-être aussi comme c'est du quotidien quelque part, c'est pas quelque chose qui se fait
mais oui, mais en fait c'est vraiment ça en fait. Enfin, c'est juste comprendre d'où est-ce qu'on vient. Je veux dire, l'histoire coloniale, ça aide à comprendre tellement de choses sur la manière dont on interagit entre nous, quoi. Sur les questions des personnes racisées, queer, donc LGBTQI+. Par exemple, il y a plein de choses qui ont été effacées de l'histoire. Même dans les luttes LGBT, on milite, par exemple, enfin, nous, on fait un grand travail d'accompagnement social de réfugiés LGBT en Belgique. Mais c'est incroyable le nombre de personnes qui, même au sein de la communauté, viennent chez nous pour nous dire « Là, maintenant, on a notre statut de réfugié, on est inséré ici, mais on a quand même des problèmes à s'insérer dans cette communauté parce que c'est une communauté majoritairement blanche. Et je sais pas, je suis dans un bar, etc., tranquillou, etc. Je suis en train de vibrer, j'ai envie de rencontrer des gens. » Et en fait, les gens sont là en mode « Ah, mais c'est qui ce mec gay, noir, c'est probablement un voleur, un truc comme ça et tout. » Donc, il y a vraiment des choses qui ne changent pas et qui, sur lesquelles on doit vraiment genre, faire le taf, quoi. Mais et aussi dans l'histoire coloniale, il y a plein de personnes queer noires qui ont été complètement effacées de l'histoire. Même dans les luttes LGBT, il y a des fois tu demandes à quelqu'un qui est Marsha P. Johnson, les gens ne savent même pas. Les gens ne savent pas que genre la question de la Pride les premières pattes qui ont commencé aux États-Unis, qui étaient vraiment des revendications pour la libération des violences policières. Sortir de la rue les jeunes trans qui étaient foutus à la porte, les jeunes personnes queer qui étaient foutues à la porte de chez eux, pour la libération des travailleuses du sexe. C'est plein de choses que les gens ne savent pas. Et ils ne savent pas que Marsha P. Johnson, c'est juste en fait, genre là, enfin, c'est une des personnes qui a permis justement la libération de plein de choses pour la communauté queer, quoi. Et c'était une femme noire, trans, travailleuse du sexe. Et les gens ne savent pas ça. Et donc, ouais, c'est vraiment ça. C'est éduquez-vous, apprenez à vraiment naviguer avec les personnes que vous côtoyez, qui sont racisées, qui sont noires, qui sont queer, etc. Et en fait, c'est pas juste aller leur poser des questions. Ah, en fait, est-ce que ça c'est ok? Non, c'est vraiment apprendre. Genre, c'est quoi ton histoire, quoi. Et le travail que ce soit. Chaïmaou Alioufès, c'est ça, c'est à chaque fois on se ressource dans l'histoire, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est dire « The ancestors walked before us », et c'est vraiment les ancêtres l'ont fait avant nous, quoi. Ils ont marché avant nous, et franchement, enfin, c'est aussi encore hyper bateau, mais connaître en fait l'histoire de quoi est-ce que j'hérite, quoi. En tant que personne noire, queer, qu'est-ce que je peux hériter de tout ce qui a déjà été fait comme lutte des personnes qui sont comme moi, quoi. Et comprendre ça, s'intéresser à ça, c'est finalement apprendre aussi à vraiment apprécier à 100% les personnes avec qui on vit, etc. Enfin, franchement, voilà. J'ai beaucoup parlé.
Oui, je n'ai pas voulu faire de man interrupting, donc je passe la parole à Shaima, peut-être avant de donner la parole à la salle pour un petit jeu de questions-réponses.
Je ne sais pas ce que je peux ajouter en plus, tellement je rejoins tout ce que tu as dit, mais ça me fait penser à ce que Belloux disait. La véritable solidarité politique, c'est de lutter contre les oppressions qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que lutter contre les oppressions qui sont les miennes, je dirais que comme je vis ça dans ma chair, ça vient à un moment donné, si la prise de conscience est là, si j'ai les ressources, si j'ai les moyens, si j'ai voilà, toute une série de choses qui font que c'est possible, j'y arrive. Mais à un moment donné, me décentrer et me dire, donc moi, en tout cas, nous, à Kaina, comment est-ce qu'on comprend lutter intersectionnellement de manière efficace, c'est évidemment travailler sur les problèmes qui nous concernent, nous. En l'occurrence, ici, c'est l'islamophobie genrée, puisque c'est un racisme qui vise les musulmanes tout particulièrement, ou des comportements de type raciste qui nous visent directement. Mais pas que par rapport au foulard, je crois que j'ai un peu trop parlé de ça. Parmi les quatre objectifs qu'on se donne, nous, par exemple, à Kaina, il y a travailler contre les discriminations qui sont faites aux musulmanes en général, qu'elles soient voilées ou pas, qu'elles se couvrent leurs cheveux ou pas. Par exemple, la confiscation de la parole médiatique, que ce soit toujours d'autres personnes qui parlent à notre place, par exemple, ou le misérabilisme, le paternalisme, voire le maternalisme, c'est-à-dire que certaines féministes se posent comme des mamans à notre place, à nous montrer le chemin, alors que nous sommes parfaitement compétentes à tracer notre propre chemin pour nous libérer de ce qui nous opprime. Ça, c'est deux des objectifs. Un troisième, c'est de se poser comme solidaire auprès d'autres luttes de groupes minoritaires, minorisés, sur base du genre, par exemple, les personnes qui vivent la transphobie. Nous la vivons pas en tant que personnes cis. Donc, mais nous nous posons comme solidaires maintenant. Comment y arriver? Ça, c'est également toute une question. Il faut pas non plus être complètement naïf. C'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais nous avons des privilèges en tant que personnes cis également. Donc, toutes ces choses-là, nous en discutons entre nous. C'est très important, mais nous sommes un collectif assez récent. Nous sommes pas là depuis 10 ans. Donc, il y a des choses qui sont encore en discussion, encore en construction. Mais se poser comme solidaires auprès d'autres luttes, absolument, la convergence des luttes est absolument nécessaire, mais du point de vue des personnes opprimées. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu l'expérience à l'occasion de la manifestation contre le racisme, hein, au mois de mars. Le même jour a été organisée, par exemple, la manifestation pour une justice climatique qui a complètement invisibilisé la marche contre le racisme, alors qu'on était des dizaines et des dizaines d'associations à avoir milité, préparé cette marche-là. Donc, être solidaire, c'est également être attentif à ce que les opprimés organisent entre elles et entre eux, et ne pas venir organiser des manifs ou des events le même jour ou au même moment, puisque nous, nos ressources sont limitées. Dans la mesure où nous n'avons pas accès à l'espace médiatique, où on n'a pas des ressources de location de lieux, on n'a pas des moyens financiers, par exemple, que d'autres groupes majoritaires ont, qu'ils ne viennent pas au même jour, au même moment, invisibiliser nos luttes. Cela ne signifie pas qu'on hiérarchise et qu'on estime que notre lutte est supérieure, pas du tout. On ne hiérarchise pas du tout, et quand je dis on, c'est Kaina, mais je pense aussi que les amis de lutte antiraciste et féministe de type décolonial sont d'accord également. Il n'y a pas cette idée de dire supérieur, inférieur, juste que notre point de vue soit également pris en compte et qu'on puisse converger vers nous et qu'on s'attende pas à ce que ce soit toujours les opprimés qui convergent vers les majoritaires qui ont déjà pas mal de ressources et de moyens. Il y avait encore quelque chose que je voulais dire. Mais ça va peut-être revenir
dans le cours du débat.
Ça va peut-être revenir, mais la question, oui, voilà, il y a un trop-plein aussi. On doit tout le temps expliquer, s'expliquer, réexpliquer encore. C'est quoi le foulard? C'est quoi être musulmane? On n'est pas soumise, on n'est pas islamiste, machin. À un moment donné, je me range complètement sur les amis de lutte qui disent, on n'explique plus, on n'en parle plus, on n'a plus envie d'en parler. Éduquez-vous. Il y a des ressources, il y a des bouquins, il y a des recherches qui sont faites, il y a Internet, voilà, je me range sur ce que Ruth a dit. Il y a un trop-plein, on en a assez, en fait, à un moment donné. Et je pense que quand on dit « luttons de manière efficace, solidarisons-nous », c'est aussi respecter les vécus des personnes qui sont opprimées. C'est pas facile au quotidien, si en plus on doit commencer à éduquer les personnes qui sont privilégiées, on s'en sortira plus, on n'aura plus de force, en fait. C'est important, je trouve, à souligner.
Alou, un petit mot avant qu'on passe la parole à la salle. Je crois, hein. Je pense. Voilà. À vous éventuellement de réagir maintenant, des questions spécifiques, des témoignages éventuellement, peut-être des questions adressées à l'un ou à l'une ou à l'autre des intervenants ici. Je ne vous vois pas beaucoup, donc je ne vois pas si vous levez la main ou pas. Ah oui, voilà, une première question.
Ben, je vais rebondir directement sur ce qui a été dit. Quand vous avez posé la question de savoir si le féminisme intersectionnel, etc., ça n'allait pas occulter d'autres choses, il ne s'allait pas diviser. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça ne divise pas, au contraire, parce que justement, ça part de spécificité, et du coup, ça parle du vécu des gens, et justement, un truc qui divise les gens, qui est une grosse question pour le moment, c'est le manque de lien entre les représentants politiques, mais autres, donc c'est-à-dire aussi les professionnels de l'engagement, quoi. On va dire tous les gauchistes professionnels, il y a un manque de lien entre le vécu et les gens qui les représentent, et que ce soit associatif, professionnel, politique ou même militant. Et donc, et c'est lié aussi au fait de toujours devoir s'expliquer, etc., dire pourquoi ça nous blesse, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, voilà, moi j'ai adoré la phrase de Ruth qui dit une des premières choses, c'est l'humilité et le fait de se renseigner, parce que... Voilà. Je boucle un petit peu, mais je souligne ce qui a été dit. Et donc, c'est à l'inverse de séparer, au contraire, parce que ça revient au vécu des gens, et c'est de tenir compte du vécu des gens, de la spécificité des gens. Donc, c'est pas spécifique, c'est juste le réel, quoi, le vécu. Voilà.
Merci pour le soulignement.
Juste, il y a une question, quelque chose avant.
Aliou,
juste un petit truc. C'est pas directement par rapport à ce que tu as dit. Mais plutôt pour compléter ici ce qu'elle a dit avant, c'est-à-dire que je m'adresse spécifiquement, vraiment je précise, après mes camarades vont m'attaquer après, mais c'est pas grave, ça fait partie de la lutte, mes camarades de gauche progressistes, je m'adresse spécifiquement à vous parce que la plupart du temps on travaille sur le terrain avec vous. Les luttes décoloniales, les luttes antiracistes, ce sont des luttes à part entière. Ne sont pas des luttes secondaires dans la lutte contre le capitalisme. C'est très important à souligner ça parce que très souvent, moi j'ai eu des frustrations parce que quand je suis arrivé en Belgique, je me suis engagé dans des mouvements anticapitalistes, de gauche, léninistes, marxistes, etc. etc. Là, à chaque fois que la question du racisme était posée, c'est attendons le climat d'abord, ensuite on va voir les ouvriers de là-bas, etc., etc., etc. Ce sont des luttes à part entière. Et si vous savez que vous ne pouvez pas donner le maximum de temps là-dessus, laissez les gens qui, eux, donnent le maximum de temps là-dessus prendre la tête de cette lutte et venir appuyer. C'est la meilleure façon de le faire, sinon on va... Voilà.
Non mais, okay. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que... quand on parlait justement de climat et d'intersectionnalité... C'est intéressant parce que juste le fait de plonger, d'utiliser l'outil qu'est l'intersectionnalité, à ne pas utiliser juste pour dire « Oh my God, j'ai plein d'identités, du coup je suis intersectionnel. » Bullshit. Race, genre, classe, commencez par là et après on verra. C'est déjà assez complexe, je crois. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de creuser justement où des fois sont les problèmes de fond. Et dans la marche pour justement le climat, moi je me suis juste dit, mais on sait tous qu'il y a des conséquences, ou qu'il y a en tout cas des politiques environnementales, écologistes, qui sont hyper en lien avec l'oppression raciste, et les gens n'arrivent même pas à voir ça, quoi. Une fois j'ai fait une interview à la RTBF, et j'arrive boulevard Reyes. Le type de la sécu, il me dit « Ah, oh, vous allez faire quoi aujourd'hui ?» Je dis « Je fais une interview. » Il me dit « Ah, oh, c'est sur quoi ?» Et je lui dis « Climat et colonialisme. » Et il me dit « Ah, mais je vois pas le lien du tout. » Alors, genre, pas du tout. Alors, je vous explique. Il y a des gens qui sont arrivés dans un pays, qui sont genre un peu installés sur des terres, qui... Enfin, genre, j'étais là, genre en mode... tu vois, et t'es en mode « Non, je sais pas. Waouh. Regarde ton téléphone un peu pour voir. Genre, il y a quoi dedans ?» Tu vois. Et donc ouais, non, il y a vraiment, enfin, c'est vraiment aussi pouvoir justement la question du racisme, c'est des fois elle permet vraiment de creuser. Enfin, moi je me rends compte de plus en plus dans tous les milieux là où je milite, tu poses la question du racisme, Genre, il y a un chill dans l'air, quoi. Ça, et pourtant, c'est partout, quoi. C'est omniprésent dans tellement de luttes, que ce soit contre le capitalisme et plein de systèmes. Et t'es là, genre, en mode, mais vous voyez pas,
enfin, structurel.
Ça, quoi. Mais bon, ouais.
C'est parce que nous avons une grille de lecture intersectionnelle. Nous arrivons à voir ces choses-là.
Ouais, on est un peu badass, c'est vrai.
On est malade. On est incurable, en fait. Je te demande. Ah, badass, j'ai entendu malade. C'est un mot peut-être un peu barbare, mais sinon, c'est pas très barbare. On dit qu'il y a un monisme parfois dans les mouvements, c'est-à-dire dans le mouvement anticapitaliste, on va dire. Il faut lutter contre le capitalisme, c'est ça qui est important. Le capitalisme nous opprime tous. Oui, mais pas de la même manière. Donc, certaines populations sont écrasées autrement que d'autres. Nous, ici, ça nous permet d'avoir des téléphones portables, par exemple, ou je sais pas, de manger des fraises qui viennent chez nous, mais à quel prix des femmes marocaines se font violer, agresser, et pour le capitalisme en soi, ce n'est pas un problème. Donc, c'est important d'aller introduire la complexité, et la lecture intersectionnelle permet de faire ça, pas pour diviser, mais pour mieux voir, mieux comprendre et mieux résoudre les problèmes concrets, pour pas rester dans des grands discours antiracistes de type moral. Il faut vraiment politiser toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant contre ça? Seul, on n'y arrivera pas. Moi toute seule, nous toutes seules à Kaina, on ne pourra jamais éliminer l'islamophobie genrée. Mais si d'autres groupes, d'autres luttes se solidarisent de la nôtre, on y arrivera. Idem contre la négrophobie, idem contre la transphobie. À un moment donné, il faut... Je crois qu'on y arrive. Moi, je suis optimiste. Maintenant, je ne suis pas naïf. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a des rapports de pouvoir entre nous également. Mais je suis optimiste parce que la réflexion, la prise de conscience est là, en tout cas dans la société belge actuelle.
Ok, on a encore à tout casser 10 minutes, donc je voudrais quand même que la salle puisse s'exprimer aussi. Mademoiselle ici, avec son gilet jaune.
Convergence des luttes. Mais c'est, vous entendez, ouais. Merci déjà pour tout ce que vous avez dit. C'est assez intéressant de pouvoir entendre différents points de vue par rapport à des questions qui sont assez transversales au final. Et justement, moi je me posais un peu une question, enfin, j'aimerais un peu avoir votre vécu par rapport à cette question-là. C'est qu'on se rend compte que, justement, cette histoire de convergence des luttes, là, on voit bien que la question écologique est en train de devenir un peu le topic number one de tous les altermondialistes, apparemment. Et j'ai un peu l'impression que, quand, du coup, on fait partie de groupes minoritaires qui se sont un peu institutionnalisés, vous avez créé des groupes, des collectifs et tout ça, j'ai un peu l'impression que si vous ne mettez pas cette question-là dans votre agenda prioritaire, c'est un peu comme si, du coup, de facto, vous restez à côté du vrai problème, quoi. Comme quand tu disais qu'on ne parlera pas du racisme quand on lutte contre le capitalisme, parce qu'il y a d'abord un autre agenda qui est prioritaire. J'ai un peu l'impression que la question du climat est un peu en train de refaire ça décrédibilise un peu ce que vous faites si vous ne parlez pas vous-même du climat. Si en tant que noir qui va parler du décolonialisme, eh ben, tu ne trouves pas 10 articles qui vont parler justement le lien entre climat et le colonialisme encore actuel. Du coup, ça veut dire que tu as un peu rien compris à ce qui se passe actuellement. J'aimerais savoir un peu comment est-ce que vous viviez ça dans vos collectifs.
Alors là, je vous impose une réponse très très courte, parce que sinon on n'aura pas le temps de prendre d'autres questions. Ça
okay.
va
Moi non, en général, en fait, je dis en fait c'est... Enfin, des gens qui pourraient être là genre en mode non mais c'est pas la question maintenant et tout, mais je dis non, mais en fait c'est clairement la question, tu vois, je veux dire, genre tu veux des politiques environnementales genre pour qu'il y ait des sachets réutilisables partout, ou tu veux en fait genre isoler toutes les maisons des quartiers et quand même garder des loyers abordables pour qu'en fait les personnes racisées qui vivent dans des logements beaucoup plus insalubres, par exemple à Bruxelles, sa main sujette à tout ce qui est particules fines, etc. Et enfin, il y a plein d'études qui montrent des choses comme ça, tu vois. Mais personne dans le mouvement climatique que sache parle de racisme environnemental, etc. Enfin, il y a air. Donc en fait, en général, moi je dis, si t'as l'impression que le racisme, genre c'est pas le moment, c'est en fait en général genre dans plein de thématiques. C'est comme je dis, le racisme c'est structurel, c'est omniprésent, c'est partout dans toutes les questions que le monde associatif peut aborder. La question du racisme, elle est là. On est là, tu vois. Genre, les personnes noires, elles sont là. Donc, si tu n'arrives pas, si tu as l'impression que c'est de côté, mais en fait, non. Les gens, ils sont là, ils sont en train de vivre ici. Et que tu parles de validisme ou de climat, il y a toujours la question raciale, elle est là, elle est ancrée dans l'histoire. C'est impossible de passer à côté, quoi. Et donc, en général, ouais, c'est plus en général les gens qui ont pas les bonnes lunettes, quoi. Donc,
Ok. Un mot, Aliou.
Moi, je dis, comment dire, j'ai vu les manifs des jeunes contre contre le réchauffement climatique, etc. J'ai vu beaucoup de mes camarades de gauche me dire qu'en fait, le mouvement écologiste est né dans les années 50, machin truc, bon, bref. Moi, je dis aux gens qui viennent de débarquer, en fait, simplement. C'est-à-dire que quand on parle d'histoire, il ne s'agit pas simplement de parler de l'histoire coloniale, mais il s'agit d'enseigner l'histoire générale de l'Afrique et de montrer que nombreuses civilisations, elles ne sont pas seulement africaines et partout ailleurs dans le monde, ont vécu de manière tout à fait écologique. Ça, c'est des mouvements contre le réchauffement climatique, bien avant l'heure. Il faut rappeler l'histoire, il faut se renseigner un peu sur ce qui s'est passé avant de commencer à dire, parce que ça veut dire quoi encore ? L'eurocentrisme. Ça revient à ça. Dans quelques années, quand, espérons-le, la lutte contre le réchauffement climatique sera gagnée, on va raconter comment cette histoire. On va dire, c'est les jeunes belges, c'est les jeunes européens qui se sont mobilisés à telle période, ils ont fait ceci, on va transmettre ça aux générations encore. Encore l'eurocentrisme. On revient encore au racisme. Et on va finir sur ça. Donc, il faut... La décolonisation, c'est une lutte... C'est pour ça que je dis c'est une lutte à part entière. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de structurer les choses et de montrer aux gens, en fait, qu'on ne réinvente pas la roue. Le problème de nos générations, c'est qu'on pense qu'on a inventé des choses. En fait, non. Les ancêtres ont fait, qu'ils soient blancs ou noirs, des gens ont fait. Maintenant, comme elle disait tout à l'heure, la transmission ne se fait pas, souvent. Et donc, on se lève un matin, on se découvre anti-écologiste, et avant nous, personne ne l'a fait. En fait, non. On ne réinvente rien du tout. On se met juste dans la lignée de quelque chose. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner sur ce qui s'est passé avant et de voir comment est-ce que de nombreuses civilisations ont vécu tout à fait en équilibre avec des systèmes économiques, tout à fait en équilibre avec leur environnement. Ça, c'est de l'écologie pure et simple. Pas simplement dire on se débarrasse du plastique, etc., etc.
Et rappeler que le capitalisme n'est qu'un moment de l'histoire et
tout
pas l'histoire
entière. Le capitalisme, c'est pas une fatalité, c'est pas un truc... Ça, c'est le fameux Tina. There is no... C'est quoi le machin ? Je suis pas très anglophone, mais bon, voilà, vous comprenez quoi.
There is no alternative.
Bref, c'est pour dire que voilà, le capitalisme, le racisme, ça n'a pas toujours existé. Ce sont des moments dans l'histoire, des moments assez courts d'ailleurs, quand on a une histoire, vision de l'histoire assez large. Donc, c'est pas des fatalités, c'est des choses qu'on peut déconstruire et aller vers l'avant.
Une autre question, j'avais vu. Oui, vous avez le micro.
Merci. Vous parliez tout à l'heure de lutter contre des oppressions qui n'étaient pas les nôtres. Mais comment on peut faire, alors que d'un autre côté, on a l'impression que vous nous dites qu'on ne peut pas les comprendre parce qu'on ne fait pas partie de la même intersection.
Attends, est-ce que tu peux clarifier ta question ? Genre, qu'est-ce...
Je ne sais pas.
T'as dit, on dit quoi ?
Qu'il faut s'approprier donc des oppressions qui ne sont pas les nôtres, c'est ça ?
Non.
C'est moi qui ai prononcé la phrase.
Il faut lutter contre des oppressions qui ne sont pas les nôtres.
D'abord, être à l'écoute de ce qui se passe dans la société déjà. Ne pas croire que son expérience personnelle ou l'expérience de son groupe est l'expérience de tout le monde. Donc c'est toute l'idée d'aller s'informer sur qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui... Maintenant, on a des tas d'outils pour s'informer. On ne peut même pas dire qu'on n'est pas au courant. On a les réseaux sociaux, on a les bouquins, on a les bibliothèques, on a des gens de notre entourage qui sont investis dans telle ou telle lutte. Donc on entend les choses. Donc être à l'écoute. Qu'est-ce que ces gens disent et que je dois entendre moi pour pouvoir envisager de pouvoir être un allié ou une alliée ? Quelqu'un de complice, quelqu'un qui peut aider. C'est-à-dire, comment est-ce que moi, en tant que personne privilégiée par rapport à ces personnes-là qui ne le sont pas sur cette question-là, pour être tout à fait concrète, voilà, moi, nous, par exemple, qui vivons l'islamophobie genrée, donc qui touche directement les femmes musulmanes, comment est-ce qu'une personne qui n'est pas musulmane peut soutenir la lutte pour la justice sociale que conduisent les femmes de confession ou de culture musulmane. D'abord, être à l'écoute. Qu'est-ce que ces femmes disent? Qu'est-ce que le discours raciste dit? Qu'est-ce que les pratiques et les silences racistes montrent, disent de ces femmes-là? C'est qu'elles sont soumises, islamistes, sexistes, qu'elles font le jeu du patriarcat et tout ça. Mais qu'est-ce que les femmes disent qui portent ces mouvements-là? Donc déjà, se poser cette question et chercher des réponses et écouter ces réponses. Parce que poser des questions, c'est bien. Entendre des réponses, c'est bien. Écouter les réponses, c'est bien. Mais les entendre, les comprendre. Et après, demander à ces personnes-là, qu'est-ce que moi, je peux faire pour vous, avec vous, à côté de vous, mais sans s'approprier, sans m'approprier votre parole et parler à votre place. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas compliqué. Nous, on a fait une rencontre en tant que collectif avec nos alliés, complices, soutiens. Voilà, on peut mettre différents mots là-dessus. Et ce jour-là, par exemple, on leur a dit clairement, nous avons ces revendications-là, nous avons cette priorité, cet agenda. Vous avez telle ressource. Par exemple, certains d'entre vous ont accès aux médias. Vous avez des amis journalistes ou, je sais pas, vous êtes vous-même peut-être journaliste ou vous avez une colonne dans laquelle vous pouvez parler de nous ou audio, vidéo, visuel d'ailleurs. Hein. Nous, on n'a pas accès à ces ressources-là. Est-ce que vous pouvez mettre vos ressources-là à notre service pour pouvoir nous faire entendre, nous rendre visibles? Là, je donne un exemple concret, par exemple. Voilà, donc l'idée, c'est pas de être solidaire de luttes qui ne nous concernent pas, c'est pas venir parler à la place de ces personnes-là en disant « moi j'ai tout compris, il y a des femmes musulmanes qui luttent contre l'islamophobie, donc moi, en tant que personne non concernée, je vais faire ça pour elles ». Non, pas du tout. De quoi elles ont besoin? Qu'est-ce qu'elles disent? Et comment est-ce que moi je peux m'articuler, venir être à côté d'elles, surtout pas devant, voire rester derrière, être invisible, des fois se mettre en danger par rapport à son propre milieu, en danger dans le sens où dire des choses qui vont déranger le milieu dans lequel vous êtes, par exemple vous, si vous militez dans une organisation antiraciste ou je sais pas, écologiste ou autre, venir parler de nous, par exemple, de nos luttes, les introduire en tant que réflexion, voire parler de nos luttes pour nous visibiliser, pour que votre mouvement puisse venir vers nous ou nous entendre. Mais parfois, c'est se mettre en danger parce qu'on va dire « Ah, tu fais le jeu du patriarcat parce que ce sont des femmes musulmanes qui... » Donc, il y a une position de risque qui est prise aussi et que je trouve importante. Il faut à un moment donné y arriver.
Charima, je vais t'interrompre parce qu'il nous reste plus que 2 minutes, absolument 2 minutes. Donc, un petit mot à Liu et puis si on a encore le temps d'une question, on la prendra. Ça va?
J'entends ta question, elle est tout à fait pertinente, c'est-à-dire la question de quelle est notre place en tant qu'allié pour certaines luttes. C'est comme ça que j'ai compris, moi, ta question. Et je vais prendre l'exemple sur moi-même, en tant qu'homme dans une société homme noir, société patriarcale. On a un concept qu'on utilise beaucoup au collectif qui s'appelle les visites guidées que l'on fait à Bruxelles. Où on parle du patrimoine colonial, de quelle est l'histoire de la Belgique en quelque sorte. Et donc, pour l'instant, on a fait beaucoup de visites, on a 10 parcours à Bruxelles, et il n'y en a aucun qui se concentre spécifiquement sur la question des femmes. Et pendant 6 ans, on a eu un guide homme qui m'a formé il y a 2 ans. Je suis devenu guide également. Et moi, je suis en train de former une femme, trilingue d'ailleurs, néerlandais-anglais, qui va commencer les visites guidées. Et donc, maintenant, la question se pose. Nous, c'est pas qu'on ne pouvait pas faire des parcours sur le féminin avant. C'est qu'on refusait justement que cette question du féminin soit abordée par des hommes. Simplement. Au devant de la lutte. Parce qu'il s'agit d'aller devant les gens et de parler au nom des femmes. Et donc, ici, le parcours féministe, il va être mis en place. La guide est déjà prête. Elle va commencer ce parcours en mi-août. Donc ici, la question c'est de savoir justement quelle a été notre place dans ce jeu-ci, avec notre expérience de guide, comment est-ce qu'on a participé à former une guide femme pour amener cette question de la présence, de la résistance des femmes afrodescendantes au système d'oppression, puisqu'on n'en parle pas souvent. Donc c'est une façon de définir en fait son rôle. J'ai mon stand, d'ailleurs n'hésitez pas à passer au stand de Mémoire coloniale, ici au Village des Possibles, plein de questions sur la place des alliés, dans les luttes. On a une fille, je vais taire son nom parce qu'elle travaille au ministère des Affaires étrangères. Elle est blanche, elle a ses grands-parents qui sont des coloniaux, etc., etc. Et elle se pose la question, ben, comment est-ce qu'on peut vous aider? Moi, quelle est ma place dans cette lutte? Déjà, le fait qu'elle pose la question, ça veut dire qu'elle s'est fait la réflexion elle-même, qu'elle n'est pas à un stade lambda de cette lutte. Et donc, elle se pose la question et je lui dis, mais tu travailles au ministère des Affaires étrangères. Simplement, tu es dedans, c'est-à-dire que tu es dans la sauce, comme on dit. Hein? Donc, fais-nous goûter la sauce aussi.
Aliou, je suis obligé de t'interrompre parce qu'on arrive vraiment au terme. C'est la règle du jeu, malheureusement, ce sont des débats qui sont relativement, des rencontres qui sont relativement courtes, et donc on a envie de continuer. Malheureusement, on ne peut pas le faire, il y a des choses qui suivent. N'hésitez pas, hein, l'usage est possible, il est grand ouvert, vous le connaissez tous, vous en venez tous pour la plupart d'entre vous. Continuons le débat à l'extérieur. Continuons à nous rencontrer, à nous croiser, je pense que c'est l'essentiel et c'est ce qui permettra effectivement que ces luttes intersectionnelles soient des luttes qui soient effectivement appropriées par tout le monde, chacun à sa manière. Merci en tout cas à vous trois et bonne suite de festival.